Donc reprenons la Mishnah, on avait parlé du Gehinom, vous vous rappelez? Maintenant reprenons depuis le début. Que ta maison soit ouverte avec largesse et que les pauvres soient les gens de ta maison. Maintenant, je me permets de dire ça parce que je l'ai entendu et c'est pas une parole qu'on aurait le droit de dire sinon, mais c'est sûr que quand on nous parle ici, on imagine qui c'est les pauvres qu'on imagine, les pauvres de l'époque. C'est les vrais pauvres, les gens qui n'ont pas où manger, qui n'ont pas où être, qui n'ont pas où vivre. Aujourd'hui, c'est difficile d'inviter des ce qu'on appelle, comment on appelle ça en français, SDF, clochards, tous ces gens-là, c'est difficile d'inviter des gens comme ça à la maison. Ou d'inviter des gens qu'on ne connaît pas et que, à l'époque, ça se faisait beaucoup, énormément. À l'époque, les juifs, lorsqu'ils allaient d'une ville à une autre ville, ils allaient dans la synagogue, et là-bas, le vendredi soir, les gens voyaient les gens qu'il y avait, on les prenait à la maison, on les invitait, donc il y avait rien de Arda Satochim qui était très très naturel. Donc les voyageurs n'étaient pas embêtés où aller où manger ou dormir.
C'est toujours le cas des rabbins, c'est toujours à la porte.
Alors c'est déjà un truc plus organisé. Maintenant, dormir, c'est une autre histoire. On n'a pas envie de rentrer des gens chez nous, on a peur, qui sont ces gens-là? D'accord, avec toutes les histoires qu'on entend, avec les fous, tout ça, c'est pas évident. Donc on ne doit pas avoir un regret de ne pas être le Rav Yaakov Yosef Herman ou le Rav Amram Bloy, que nos portes sont ouvertes, que chacun y rentre dans les maisons. C'est pas... Mais une chose est sûre, c'est que les pauvres, il y en a, des gens qui sont dans le besoin. Ça ne peut pas forcément être des pauvres en argent. Ça peut être des gens qui n'ont pas où aller Shabbat, ça peut être des Bachoy Shivot, ça peut être de la famille qui sont dans le besoin, pas forcément le besoin financier, la famille qui sont dans le besoin de famille. Et donc d'ouvrir la maison, de recevoir les gens, c'est une très grande chose. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que la misère de Haknasat Orim, de recevoir des invités, comme le ramène le Mishtabura là-bas, c'est quand l'invité il a un réel besoin. D'inviter des copains Shabbat, des copains, des copines, des couples, des amis, de la famille, c'est pas forcément la misère de Haknasat Orim. D'accord? C'est pas grave, on a le droit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inviter des amis, la famille. Mais c'est pas bizarre Haknasat Orim. Haknasat Orim, c'est quand les gens, ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas où manger, ils n'ont pas où dormir. C'est la vraie misère d'Arkansas Tochim. Mais on ne doit pas s'empêcher d'inviter les gens. Bien sûr, bien entendu, quand on invite les gens, il faut faire très attention à toutes les règles de pudeur et de tignoute. Et c'est peut-être pour ça, hein, c'est pas que, pas peut-être, c'est sûr que c'est pour ça que les deux injonctions sont liées. D'un côté, que tu me dis que ta maison, elle soit ouverte et que les pauvres soient dans ta maison. Mais après, on te dit, attention, parle pas trop avec la femme. C'est comme pas trop avec la femme. Qui n'est pas non plus trop de promiscuité. C'est quoi promiscuité? C'est mieux, hein, c'est mieux que proximité. D'accord, il y a des règles de tsniout à garder. Vous savez, la vraie anaga, c'est de ne pas tutoyer les gens. Enfin, les hommes ne tutoient pas les femmes et les femmes ne tutoient pas les hommes. Dès qu'on commence à tutoyer, alors tout de suite, il y a un sentiment de rapprochement qui n'est pas bon du tout, qui n'est pas barré du tout. D'accord? Donc, moi, j'avais été comme ça, mon rave toujours m'a obligé à vous voyez les gens, vous voyez tout le monde. J'ai quelqu'un, je vous voyais. Alors, c'est bon, des fois, tu vas chez des gens, la dame de maison, tu la vous vois et elle te tutoie. Et après, il y a un truc, après, elle commence à te vous voyer aussi. Elle voit qu'il y a un problème. Maintenant. Alors, il y a des histoires, bien sûr, qui viennent raconter ça. Il y a un très très grand personnage qui s'appelle le Rav Amram Bloy. C'est ce qu'il a, Rav Amram Bloy. C'est un personnage que quand je vais vous dire il est à l'origine de quoi, vous allez être choqués. Mais à son époque, c'est avait une autre dimension, vous allez comprendre. C'était un peu différent. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Le Rav Amram Bloy, c'était je ne suis pas le créateur, parce que je ne sais pas si c'est vraiment le créateur, mais c'était la tête du mouvement Netore Karta. Ah, Netore Karta, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas nos copains. Mais c'était un grand personnage qui était très, très, très sadique, qui était critiqué par rapport à certaines conduites politiques, mais qui était apprécié pour sa piété, pour ce qu'il était. Lui, il s'est beaucoup battu pour le Shabbat, et il s'est retrouvé en prison. Le Chazon Ish, il est venu le voir en prison. Il lui a dit, le Shabbat, il est en prison. Ça veut dire que, bien qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, parce qu'ils ne pensaient pas que c'est comme ça qu'il fallait agir, c'était un monsieur très respecté. Le problème, c'est ceux qui sont venus après, c'était tous des oufs, qui sont complètement... ouais, des gens qui ont tous... Ils sont rentrés dans un délire exagéré, qui était, à mon avis, très très loin du personnage. Moi, j'ai connu son petit-fils, du Rav Amram Bloy. Je vais demander, par rapport, il ne me dit pas du tout, mon grand-père, c'était un Ish Emet, Ish Tzedek, un homme d'amour. Il m'a raconté une fois, il a fait une manifestation, il a commencé à crier, tout ça. Et il a crié sur un chauffeur de bus. Et le chauffeur de bus, il bon, pense Shabbat, il s'est arrêté, il est descendu, il s'approchait de lui, il dit « Quoi, qu'est-ce que tu es ?» Et le Rav Bloy, après, il dit « Viens, viens, faire Seuda Shishit à la maison. » Il a pris, il l'a emmené comme ça. En tout cas, ce monsieur-là, non, c'était des gens sincères. Il y a une histoire aussi très violente, je vous la raconte ou vous êtes choqués? Non, elle est trop violente, je ne la raconte pas.
Non, si.
Non, je la raconte. Non, mais je sais pas si on peut la raconter, la caméra. Les gens, ils vont le dire et tout. Bon, je vous raconte, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Il y avait à Géoula, il y avait un cinéma, cinéma Edison. Vous voyez, à côté du Taboutor Etzraïm, il y avait un... Non, pas Etzraïm, comment il s'appelle Taboutor là-bas, je ne vois plus. Là-bas, à côté de la Yeshiva de Brisk. Vous voyez où c'est, Zichron Moshe?
Pas du tout,
non. La Yeshiva Etzraïm? Non, c'est pas Etzraïm, c'est non. Bon, là-bas, il y avait un cinéma Edison, juste à côté du quartier religieux. Cinéma, cinéma. Et il était ouvert Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Amram Bloy, un jour? Il est rentré dans la queue, pour genre, il fait la queue un Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré sa tête dans le... la lucarne, là, pour... voilà, pour acheter un ticket. Et il s'est accroché comme ça, et il voulait plus bouger. Et les gens, ils le tiraient, pousse-toi, machin, pourquoi acheter le ticket? Non, Shabbat, ils voulaient pas se les faire. Ils sont venus, ils l'ont tapé, ils l'ont truc, ils l'ont tiré. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je crois que la police à la fin, ils l'ont embarqué. Je crois que de ça, ils l'ont embarqué. C'est un monsieur qui a lutté pour le Shabbat. Bon, c'est choquant. Bon, c'est d'ailleurs 60 ans, 70 ans. T'as qu'à être choqué, ils s'en fichent. Ils sont choqués. Ils sont choqués. Ils sont choqués, ils luttaient à l'époque. C'est le chassidim, c'est le chassidim. Laisse tomber. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, rien à voir, rien à voir. C'est pas le... Mais il y a une autre histoire avec lui, Rav Amram Bloy. Maintenant, je sais pas si vous savez que lui, en deuxième mariage, il s'est marié avec une grande dame.
La rabbinite?
Non. Avec... je connais pas son nom avant, Ruth Bloy. C'est que c'est pas Ruth Bloy? Ah, Ruth Bloy, elle a fait un livre qui s'appelle « Les gardiens de la cité ». Elle, c'est une dame, si je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une grande dame. Il y a quelqu'un qui habitait à Aix-les-Bains, il se rappelle de la dame, il dit que c'était une dame, c'est une grande dame. Elle a pendant la guerre, elle était dans la résistance. C'est-à-dire qu'elle a fait des choses, des grandes choses, et après elle s'est convertie au judaïsme. Elle a une histoire, une très très grande histoire, où l'État d'Israël, la Médina, elle a tremblé à cause d'elle. Ouais.
On la veut.
Je connais pas, je vais pas vous raconter tous les détails, mais à l'époque, il y a une famille qu'ils avaient un enfant. Eux, ils n'étaient pas religieux. Les grands-parents étaient religieux. Et il y avait le petit-fils qui s'appelait Yosele. Et ce petit Yosele, les grands-parents vont essayer, je crois même qu'ils vont le prendre, ils vont, genre kidnapping, ils vont le prendre, pour pas le donner aux parents qui n'étaient pas religieux. Et donc il y a une grande bagarre entre les grands-parents et les parents. Je vois les têtes que vous faites, on a pas à juger, on ne sait pas exactement. D'abord, l'histoire, je vous la raconte très mal, donc on ne sait pas les détails. Et deuxièmement, c'était une génération, ils avaient leur truc, donc on ne va pas juger, pas juger. Et qu'est-ce qui va se passer? La police va rechercher le gosse, et c'est les grands-parents qui l'ont. Maintenant, qui c'est qui va s'occuper de garder le gosse et de cacher le gosse? C'est cette dame-là.
Madame Bloy.
Je ne sais pas d'où il la connaît, mais c'était une femme très forte.
Elle était convertie ou pas encore?
Elle était convertie, et elle a pris le gosse, et elle l'a tourné dans plein d'endroits, elle l'a caché en Europe. Yosele, très grande histoire. Et à la fin, le Mossad, il l'a recherché, et là-bas, ils l'ont retrouvé. Les mauvaises langues disent qu'ils avaient le choix d'attraper ou bien Mengele, ou bien Ruth Bloy avec le petit Yosele, et qu'à l'époque, ils avaient dit qu'il faut l'attraper à lui. Bon, mais ça avait fait un gros scandale ici. Le petit Yosele, il est encore vivant, il habite en Israël, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est une grande... La terre, elle a tremblé. Maintenant, elle s'est mariée en deuxième âge avec le Rav Amram Bloy. Maintenant, lui, il est connu pour avoir, de recevoir des invités. Il dit, maman, dans sa maison, c'est des clochards et tous les misérables de Mea Sharim qui habitaient chez lui. On avait dit dans un des cours, rappelez-vous, avec la rabbinite Linder, vous rappelez, bah, la grand-mère du Rav Linder ici, qu'après-guerre,
sa grand-mère,
ouais, qu'après-guerre, il y avait beaucoup de rescapés de la Shoah qui sont venus et qui étaient complètement devenus fous, vous m'avez repris, qui avaient perdu la tête de tout ce qu'ils avaient vécu et qui traînaient dans les rues. Et donc la rabbinite Linder, c'était une dame qui s'occupait de ces gens-là. Et le rabbin Amram Bloy aussi, il y avait dans sa maison plein de gens qui étaient des SDF, clochards, qui habitaient chez lui. Il raconte que des fois, il rentrait le soir au Beit HaMidrash et dans son lit, il y avait quelqu'un en train de dormir. Et donc, il allait au Beit HaMidrash dormir. Alors, je me suis toujours posé la question, par rapport à ses filles et sa femme, comment, où est-ce qu'ils dormaient, où est-ce que... Quand ils avaient une pièce qui était fermée pour eux. Bon, en tout cas, le rove de la maison était ouvert, le frigo, le machin, les gens rentraient. C'était comme ça. Et une fois, il arrivait un vendredi soir chez lui à la maison. Et là-bas, l'histoire raconte qu'il avait trouvé des spécimens dans la rue, mais alors des vrais spécimens. Et sa femme, elle l'a vu, elle a dit, dis-moi, t'as pas pu en trouver d'autres là? Il n'y a que ceux-là que t'as trouvé. Il lui a dit, écoute, j'ai demandé au Rav Yungray, au Rav Bengis. Le Rav Yungray, Rav Bengis, c'était les Gdolis Israël, là-bas, les grands rabbinim de Mea Sharim de l'époque. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils voulaient venir à la maison Shabbat? Et ils m'ont dit que non, ils avaient où passer Shabbat. Donc, eux, ils n'avaient pas besoin d'être invités. Donc, je me suis contenté de ramener ceux qui n'ont ni où manger, ni où dormir. Bien entendu, de faire ça, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est conseillé de faire ça, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur qui on tombe. Mais, grand personnage, il faut voir que c'est des gens-là, ils avaient des grands projets de vie, quoi. Ils n'avaient peur de rien. La deuxième histoire que j'ai ramenée ici, c'est le Rav Hillel qui nous l'avait raconté de sa bouche, j'ai entendu. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Tzadkat Hussein Aboudi. C'est le père du Rav Reuven Aboudi, si vous avez entendu déjà parler, qui est un des Avbeddin de Havat Shalom là-bas. Un grand, grand Amitracha. On l'a vu, on a parlé avec lui, un monsieur exceptionnel. Son père, Rav Tzadkat Hussein Aboudi, c'était aussi un très grand Amitracha. Et lui, il raconte que lorsque il y avait un mariage et qu'on l'invitait, c'était le Rav qui arrivait, c'était un grand personnage. Et lui, il ne s'asseyait pas dans la table des... Comment on dit? La table des rabbanim, la table de mise à la table d'honneur. Où est-ce qu'il s'asseyait? Alors ça, c'est aussi, c'était très joli qu'à Jérusalem, il y avait le minag, que dans les mariages, il y avait des tables, une table ou des tables qui étaient réservées aux pauvres. Et donc tous les clochards, tous les gens venaient, pouvaient rentrer dans n'importe quel mariage, s'asseoir et manger dans le mariage. Et le Rav Tzadkat Hussein Aboudi, quand il rentrait dans le mariage, où est-ce qu'il s'asseyait? Il s'asseyait à cette table-là, avec les pauvres. Et il raconte au Rav Hillel qui se rappelle d'avoir vu comme ça un vieux monsieur avec sa barbe, comme ça. Il était assis avec sa canne, comme ça. Il était fier d'être parmi tous ces gens-là. C'était lui, sa fierté. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans un mariage et manger?
Oui.
Ouais, tu vois un mariage, tu rentres et voilà, tu rentres, tu manges. T'as le droit ou pas? T'as le droit ou pas?
Danser, pas
manger. Pourquoi pas? Si je suis là, je mange un truc. Gezel, tu dis? Cette question-là, je l'ai posée parce qu'il y a un ami à moi, il m'a raconté que sa femme, des fois, elle n'avait pas le moral. Au début du mariage, il y avait des problèmes, tout ça. Bon, c'était pas. On s'est rentré dans tous les détails. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il l'emmenait dans les mariages. Il l'emmenait dans les mariages. On est invité à un mariage. Ah bon, ouais? Et qu'elle allait, elle était assise, elle mangeait, elle dansait, elle était contente, quoi, le truc. Et maintenant, elle ne sait pas, elle sait pas qui c'est. Elle ne sait pas que son mari, en fait, il ne connaissait pas. Et donc, un jour, il nous raconte ça, et on s'est dit, mais c'est Gezel, quoi, c'est permis. Alors, j'ai posé la question une fois à Dayan Rochel Mishpat, au Rav Itar, et je lui ai dit, Rav, c'est permis de faire une chose pareille ou pas? Il m'a dit, ça dépend. Si tu as un aspect de pauvre, genre clochard, tu as le droit. Sinon, c'est du Gezel. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu es un peu clochard, le khatan et la kala, la famille, ils sont fiers, ils sont contents d'avoir des invités pauvres à leur table. C'est leur plaisir, au contraire, ils veulent. Et d'où est-ce qu'on voit ça? De la fille de... Ah, la fille de Rabbi Akiva! Alors, vous êtes? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? La fille de Rabbi Akiva, il y avait un astrologue qui avait prévu, qui avait dit à Rabbi Akiva que le jour du mariage, elle allait mourir. Et le jour de son mariage, elle n'est pas morte. Et son père, il lui a dit, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé un serpent mort, éclaté avec une aiguille, comme ça, une barrette de cheveux. Et le rabbi Akiva, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Il lui a dit, bah, pendant que tous les gens étaient en train de s'amuser, en train de danser, de manger, moi, j'ai vu des pauvres, je suis parti m'occuper d'eux. Le rabbi Akiva, il a dit, de là, on apprend que Tzedaka Tatsimem avait, que la Tzedaka, elle sauve de la mort. Donc, elle avait été décrétée sur laquelle elle devait mourir. Et le fait d'avoir fait du chesed le jour de son mariage, c'est ça qui l'a protégé, qui l'a sauvé de la mort. Donc, si t'es un pauvre et t'es un aspect de pauvre, le Khatan et la Kala sont heureux et contents de t'avoir à ton mariage. Mais sinon, mon ami, oh, 500 shekels la mana, on ne peut pas se permettre d'inviter tous les... Même 200 shekels, même 100 shekels. D'accord, même...
Ravita, c'est
le petit de Ravita, ouais, je crois que c'est en famille.
C'est
de Arnaud ? Non, de Avat Shalom, je ne sais pas où il habite. Mais je crois que c'est en famille. Je crois que c'est en famille. Ouais. Voilà, Maison d'Hachem. En tout cas, voilà quoi. Hein. C'est... Juste on finit rapidement. On voit que Yoav, vous savez c'est qui Yoav? Yoav, c'était le chef d'état-major de David Ameler. Très controversé, parce que lui va tuer deux grands personnages. C'est qui les deux grands personnages qui va tuer? Avner Ben Ner. Et Amasa Ben Yeter, d'accord? Il va les tuer les deux. Alors, chacun, il y a une histoire pourquoi ils se sont tués, ils se sont entretués. Mais en tout cas, quand il est mort, qu'est-ce qui a marqué? Regardez le verset, qu'est-ce qu'il nous dit dans Melachim? Il fut enterré dans sa maison, dans le désert. C'est quoi dans sa maison, dans le désert? Alors, Chazal, ils nous disent que sa maison, elle était comme un désert. De la même façon que le désert, il est ouvert à tout le monde, sa maison, à lui, était ouverte à tout le monde. Et là, la remarque qu'on fait ici, c'est que Yoav, qui était un très grand personnage, alors bien s'il est super controversé, Yoav, super controversé, par rapport à ce qu'il a fait, etc., Aval, malgré cela, c'était un grand Baal Chesed. Et la Torah, lorsqu'elle va se rappeler de lui, elle ne va pas se rappeler de ses actes militaires extraordinaires, elle va se rappeler de lui, de ses actes de générosité. D'accord. Bon, il y a une autre histoire sur Rabbi Chaim de Brise, très intéressant, aussi sur les Reb Zouché et son frère. Oh oui. Mais Bezrat Hashem, à l'occasion, je vous la raconterai. C'est vrai, c'est vrai.